Merci Seigneur. Se réjouit quand le Seigneur nous parle, nous encourage, et il va encore le faire par sa parole, on le croit. On va aller dans Matthieu chapitre 6. On avait commencé il y a quelques temps cette étude de la prière du Notre Père, Matthieu chapitre 6, verset 7. Et on a particulièrement insisté sur le fait de comprendre ce que veut dire que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. C'est pas une formule magique qui fait en sorte que Dieu s'occupe de tout, mais c'est à nous, par notre vie, par notre comportement, d'honorer ce que Dieu a déclaré saint. Voilà ce que ça veut dire sanctifier le nom du Seigneur. On va pas y revenir plus longtemps, mais là on va s'intéresser à cette deuxième partie. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Vous êtes à Matthieu, c'est bon ? Chapitre 6, verset 7. Avec ces conseils qui nous sont donnés de la part de Jésus, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, je le disais, on va s'intéresser à cette partie-là du Notre Père. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si vous avez fait attention au premier chant. C'est pas pour rien. Quand on est le chantre et le prédicateur, on peut en profiter pour mettre des thèmes correspondant au message. Et le couplet disait « Alléluia, que ton règne vienne. Alléluia, ou Maranatha, viens. » Jésus règne en moi. Déjà là, on a une réponse, une ébauche de réponse. C'est facile de prier encore une fois que ton règne vienne. Beaucoup de gens prient que ton règne vienne. Mais combien comprennent que le règne de Dieu commence par venir dans notre cœur, dans notre vie. Quand je prie que ton règne vienne, je demande à Dieu et je donne à Dieu l'autorité sur ma vie. Seigneur, tu es le roi, je me soumets à ta volonté. Voilà tout ce qu'on dit. Et on ne le réalise pas toujours. Mais ce matin, on va essayer de réaliser cela un peu plus. Alors, c'est toujours intéressant de rattacher aussi cette expression qui résume la foi sur la terre comme au ciel. La foi, c'est de vivre notre vie ici-bas en ayant conscience de la réalité du ciel. Nous devons vivre le ciel sur la terre. C'est ça la foi, en fait. Quand on a donné sa vie au Seigneur, quand on s'est converti, on a accepté de rentrer dans cette réalité avant. Le ciel existait ou pas, on s'en fichait, excusez-moi l'expression. Mais quand on a donné sa vie au Seigneur, maintenant on sait qu'il y a un Dieu vivant, on sait qu'il est sur son trône et on veut marcher selon sa volonté. Est-ce que dans le ciel, le règne de Dieu, il est bien? Est-ce que vous vous en doutez? Si on dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, ben intéressons-nous au ciel. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Bon, la Bible dit que dans le ciel, il y a un trône. Déjà à la fin de la prière, sans aller trop loin, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Mais le règne, ça veut dire que Dieu règne de toute éternité. Dieu règne au-dessus de tout. Dans son ciel, il est sur son trône et il règne. Et peu importe les choses qui peuvent se passer sur la terre, en bien ou en mal, Dieu règne au-dessus. Parfois, il permet l'épreuve. Parfois, il permet la douleur, la souffrance, et ça, c'est pas évident à comprendre. Mais quand on a compris que Dieu règne par-dessus tout, on a compris aussi qu'il est capable de changer le mal en bien. Il est capable de transformer les situations. La Bible, partout dans les psaumes, c'est dit à tellement de reprises que Dieu est sur son trône, elle nous invite à croire que Dieu est souverain sur toutes choses. Je vous prends un psaume, le psaume 103, « L'Éternel a établi son trône dans le ciel. Son règne domine tout l'univers. » Il ne règne pas que sur la terre, il ne règne pas que dans les cieux, il règne sur tout l'univers. Les scientifiques s'évertuent, on voit les hommes riches qui veulent aller dans l'espace, etc. Ils ont des désirs de voir les étoiles, et ils ont le droit, tant mieux s'ils peuvent. mais qui peuvent aller à l'autre bout de la galaxie s'ils y arrivent un jour. Dieu régnera toujours, parce qu'il est le Tout-Puissant. On va lire un psaume ensemble quand même. Après, gardez vos doigts à la page de Matthieu, parce qu'on va rester dans Matthieu un long moment. Psaume 93. Alors là, c'est un psaume... Je veux dire, si là, on croit pas que Dieu règne avec ce psaume, ben, on peut jeter notre Bible. Hein. Ou alors, on fait ce qu'il faut, on lit et on croit et on met notre foi. Psaume 93, verset 1er. Regardez, c'est clair. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il a pris la force pour ceinture. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leur grondement plus que la voix des grandes eaux, des magnifiques vagues de la mer. L'Éternel est magnifique dans les lieux élevés. Tes préceptes sont entièrement vrais. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Ça va, vous êtes convaincus que l'Éternel règne dans le ciel? Et on peut même dire qu'il règne sur la terre. Maintenant, on sait que dans ce monde, il y a aussi le prince de ce monde qui est là et qui fait son travail. Mais un jour, ce que nous savons, c'est que Dieu va envoyer Jésus-Christ poser ses pieds sur la terre à nouveau pour régner, pour apporter la justice et pour aussi récompenser tous ceux qui auront cru. Regardez, allez, Apocalypse, parce que vous n'avez pas l'air convaincu de ce que je dis. Je vais vous montrer que c'est biblique. Hein. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Et c'est ça aussi compris quand on dit que ton règne vienne. On pense à ce moment où Jésus va venir régner. Et je peux vous dire que ça sera bien. Je peux vous dire que tous les problèmes que notre terre rencontre aujourd'hui, ils vont être réglés en un claquement de doigts par le Seigneur, parce qu'il est tout puissant. Apocalypse chapitre 11 verset 15, le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur les trônes se prosternèrent sur leur face. Ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, qui es, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Amen. Un jour, il va y avoir le règne total, entier de Dieu sur terre. Et nous soupirons après ce moment-là parce que ça va régler tellement et tellement de choses. Mais en attendant, Jésus nous invite à prier que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et c'est intéressant de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez que dans la parole de Dieu, le mot règne et le mot royaume, c'est les mêmes. C'est la même chose. C'est juste qu'à un certain moment, ils ont préféré traduire avec règne ou royaume, mais ça veut dire pareil, exactement pareil. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de ne pas séparer la prière du Notre Père des enseignements du royaume. Est-ce que Jésus a parlé du royaume de Dieu? Est-ce que Jésus a beaucoup parlé du royaume de Dieu? Beaucoup. Souvent, il dit « le royaume de Dieu est semblable à » Matthieu 13 est rempli de paraboles qui expliquent cela, et même au-delà. Jésus a parlé beaucoup du royaume de Dieu et des attitudes qui permettent d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ce matin, je voudrais juste qu'on puisse rapidement faire le tour de quelques attitudes. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que dans ces attitudes-là, Dieu règne. Si je développe dans mon cœur cette attitude, si je fais ce qu'il faut selon la parole de Dieu, Dieu règne dans mon cœur, dans ma vie. Et ce que je fais étend le royaume de Dieu, tout simplement. Alors, Matthieu chapitre 4, verset 17, maintenant vous pouvez rester dans Matthieu. Matthieu 4, verset 17, c'est une des premières prédications de Jésus, très courte. Une phrase. Vous aimeriez que la prédication elle dure qu'une phrase, hein ? Vous le pensez. Mais ce matin, ça ne sera pas ça. Regardez ce que dit Jésus. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est proche. » Amen. Dieu règne là où il y a une repentance profonde. Une des attitudes qui fait venir le règne de Dieu, c'est la repentance. c'est peut-être la première attitude d'un cœur qui peut voir le règne de Dieu dans sa vie. Si je me repens profondément, attention, on parle de repentance profonde. On ne parle pas de la repentance comme on peut le dire du bout des lèvres. Oh, je regrette. Mais en fait, là, on recommence tout de suite après. Non, non. Celui qui avoue sa transgression et la délaisse, obtient miséricorde, nous dit un verset de la parole. Ça veut dire, je dis au Seigneur ce qui ne va pas, et je m'en détourne. Je tourne le dos à cette habitude. C'est ça la repentance. Dieu règne là où il y a une repentance profonde. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Est-ce que c'est bien que le royaume des cieux est proche? Bon, c'est mieux quand il est loin. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Jésus était là, il annonçait le royaume de Dieu. Il est proche, mais il leur disait, repentez-vous. Parce que si vous vous repentez, vous allez goûter déjà. Vous allez avoir cet avant-goût du ciel. Vous allez déjà goûter à cette vie céleste sur la terre. Repentez-vous. Il n'y a rien de pire que d'être proche du royaume de Dieu et de ne pas y entrer. À quelqu'un, Jésus va dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Est-ce que c'était bien? Oui, dans un sens, ça veut dire qu'il était moins loin qu'avant, mais j'espère que cet homme ne s'est pas contenté de cette réponse. On peut être près du royaume de Dieu, mais ne pas être dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui se passera quand Jésus va revenir? Eh bien, on restera là. Parce que Jésus vient prendre ses enfants, ceux qui sont de son royaume, les citoyens de son royaume. Et c'est tellement important d'être à l'intérieur du royaume de Dieu. Pour être sauvé, il ne suffit pas d'être près. Il ne suffit pas d'être près du royaume de Dieu, proche. Il faut être dans le royaume de Dieu, parce que sinon, on risque la perdition éternelle. Il y a une histoire intéressante qui raconte bien cela. C'est un homme qui se promenait dans la forêt indienne. Le ciel était magnifique, l'air était chaud, il flânait dans la forêt, il voyait des plantes exotiques. Et puis tout à coup, en regardant un buisson, il voit de l'autre côté du buisson un museau, un tigre, qui est là et qui le regarde. Alors tous les deux sont surpris, et lui tout doucement, il commence à reculer, il commence à faire demi-tour, il commence à marcher, et il entend que derrière, les pas aussi font pareil. Et donc il commence à marcher un peu plus vite, et puis il entend que ça progresse, donc il court. Et à un moment donné, il entend que le tigre est en train de le rattraper, alors il court de toutes ses forces, et il se souvient qu'en passant, il a vu un refuge qui était là exprès. Une petite cabane en hauteur qui était un refuge pour échapper aux bêtes sauvages. Donc il court de toutes ses forces, il sait que c'est pas loin, il y va, il arrive, il monte l'échelle, il fait tout ce qu'il faut. Il arrive à la porte, il dit, ça y est, ouf, sauvé. Il ouvre, il essaye d'ouvrir en tout cas, la porte était fermée à clé. Il était tout près du refuge. Je raconte pas la suite. Il était tout près du refuge. Mais est-ce que c'est suffisant d'être près du refuge? Le tigre lui a expliqué, lui a donné la réponse. Alors ça fait sourire, mais spirituellement, c'est vraiment important de réaliser qu'on a besoin pas seulement d'être proche, pas seulement de venir à l'église, d'écouter, de dire « Ah, c'est joli !» mais de dire « Seigneur, je veux vivre ça. Je veux vivre ton royaume. » Et la repentance nous ouvre le royaume de Dieu. La clé du refuge, c'est la repentance, parce que Jésus est la porte, Jésus a payé le prix, Jésus a donné sa vie à la croix. Si je me repens, ça veut dire j'accepte cette œuvre qu'on n'a pas cessé de chanter ce matin, et je suis à l'abri dans le refuge. Matthieu chapitre 11, verset 20 nous dit, je le lis rapidement, « Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenti. » Parfois, on a une image de Jésus un peu trop gentille. On ne voit que l'amour, la bienveillance, la guérison, la bénédiction qu'il apporte. Et Jésus a cette part. Mais ce texte nous montre aussi que parfois, Jésus, dans son amour, dans sa bonté, est obligé de faire des reproches, est obligé même d'être sévère envers les pharisiens. Lisez Matthieu 23 à la maison, vous verrez combien il est sévère. Et même, il annonce le malheur. Si vous lisez la suite du verset, il dit « Malheur à toi, Bethsaïda », etc. Aux villes, là où il a fait tant de miracles, les gens restaient imperméables. Parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Jésus a le droit. Est-ce que Jésus a le droit? Tiens, parce que je le dis, mais je voudrais que vous me répondiez. Est-ce que Jésus a le droit de faire des reproches? Ben, il est... N'est-il pas le roi des rois? N'est-il pas le roi dans ce royaume de Dieu? Donc c'est lui qui a le droit de dire les choses qui vont et qui ne vont pas. Et on n'a pas à dire notre mot, on n'a pas à remettre en question ses paroles. Si Jésus nous fait des reproches, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer pour nous. Et si Jésus nous fait des reproches, son but, c'est pas de nous écraser, mais c'est de nous élever. Et il voit les choses dans nos vies qui bloquent, qui sont là comme des murs, comme des forteresses de raisonnement qui empêchent sa bénédiction de venir. Alors, il nous fait des reproches pour que ça puisse être détruit et pour qu'on puisse aller dans les plans qu'il a tracés pour nous. Comment est-ce que vous réagissez? C'est facile de parler des autres. Comment est-ce que vous réagissez quand on vous fait un reproche? Vous savez que la façon dont on réagit au reproche, c'est révélateur de notre repentance. Quand notre cœur est habitué à la repentance, habitué à aller devant le Seigneur, « Seigneur, tu vois, j'ai fait ça, excuse-moi, pardon, je sais que tu as ton sang à couler pour me pardonner. » Quand on est habitué à faire ça tous les jours, et que quelqu'un nous dit une remarque, et que c'est une bonne remarque en plus, je veux dire, il y en a qui font des remarques pour nous détruire, mais il y en a qui font des remarques pour nous faire grandir aussi. Et la façon dont on réagit se révèle si on a l'habitude de se repentir ou pas. Alors sur le coup, on peut être, on est tous humains, hein, on peut être secoué, mais si on est dans la repentance, c'est bon, on avance avec le Seigneur. Mais si on se met en colère et puis on commence à critiquer, on commence à dire plein de choses, mais où est la repentance? Où est, est-ce que Dieu règne? Est-ce que après on peut prier que ton règne vienne, que ton règne vienne. On peut chanter Alléluia, que ton règne vienne. Mais ça commence par cette repentance-là. Quand on a pris l'habitude de laisser le Seigneur nous reprendre, la repentance, c'est simplement être attentif aux reproches du Seigneur et avancer, et changer, et le laisser nous transformer, parce qu'il sait tellement mieux que nous ce dont nous avons besoin. Regardez Matthieu chapitre 18, qui est lié à ce qu'on vient de dire, mais qui emploie un autre mot que la repentance. Matthieu 18, verset 1er, « À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, regardez la question, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est sévère, quand même, ce passage. Oui, mais c'est important. Parce que Jésus nous dit, si vous faites pas ça, vous allez manquer le royaume des cieux. Vous allez beau prier que ton règne vienne, si vous ne vous convertissez pas, c'est ça le deuxième mot, qui est associé à la repentance, la conversion, et là, littéralement, dans le texte, c'est juste un demi-tour. Si vous ne tournez pas le dos à cette attitude de vouloir être le plus grand, non, ressemblez à cet enfant qui est simple, qui est humble, qui cherche pas à imposer ses règles, mais qui est à l'écoute. Les enfants, ils font confiance à ceux qui leur parlent et ils croient ce qu'on leur dit. Alors, quand c'est des bonnes personnes, c'est très bien. Quand c'est des mauvaises, c'est très mauvais. Mais c'est ça la particularité d'un enfant. Et Dieu nous invite devant lui, pas devant les hommes, devant lui à être comme des enfants. Devant le roi des rois, nous devons être comme un enfant. Combien de fois, malheureusement, j'ai vu des personnes qui voulaient expliquer à ceux qui connaissaient le Seigneur comment il fallait s'y prendre alors qu'ils n'étaient même pas eux-mêmes au Seigneur. Je me souviens d'un jeune homme, c'était sur Toulouse à l'époque, et ça faisait les premières fois qu'il venait aux réunions. C'était un pasteur qui avait prêché, et comme c'était une des premières fois, j'étais allé l'accueillir à la fin, parler avec lui. Comment ça va, etc. Alors, un bon message en plus, ça m'avait fait du bien à moi. Puis le monsieur commence à dire, oui, mais voilà, le pasteur, il a dit ça, mais je crois qu'il s'est trompé, et puis moi, je suis pas d'accord, moi, j'aurais dit ça comme ça et comme ça. D'accord, je le connaissais pas trop encore, mais j'ai laissé passer quelques temps, et puis, dans le comportement, il a démontré par son comportement, il avait beau avoir des bonnes explications par rapport à comment il fallait faire, il a montré qu'il n'était pas chrétien en fait. Et il a, à un moment donné, il a dû même partir de l'église, parce qu'il avait un mauvais comportement. Et après, il voulait enseigner ceux qui prêchent. Alors, franchement, moi ça m'est arrivé de parler avec des non-croyants qui donnent des conseils, mais constructifs. Et c'est tellement intéressant. Donc c'est pas ça que je remets en question. Moi, je suis toujours en formation continuelle. Mais c'est le fait de dire, il faut faire comme ci et comme ça, mais moi, je ne fais rien par contre. Moi, j'avais envie de lui dire, d'abord, convertis-toi, Après, on en reparle. D'ailleurs, je crois que je l'ai dit à peu près comme ça. Mais c'était important qu'il le sache. Avant de pouvoir donner des leçons au Seigneur, il faut écouter les leçons qu'il veut nous dire. D'ailleurs, quand on en est à donner des leçons au Seigneur, c'est qu'on est un peu aveuglé. Hein. Les disciples d'Emmaüs, ils ont dit, oui, mais est-ce que tu ne savais pas? Est-ce que Jésus savait pas? Il savait très bien. Et il y a des fois, ça sort du cœur comme ça. En tout cas, quand on veut que le royaume de Dieu vienne, on est malléable entre les mains du Seigneur. On est comme des petits enfants. C'est comme un bébé qui est dans le ventre, qui veut expliquer à un chef étoilé comment faire la cuisine. Réfléchissez à ça. Ben, quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, il n'est pas encore né, et il va expliquer au cuistot, ah ben voilà, il faut mettre tel ingrédient comme tel... Non, il ne sait même pas parler. C'est par étapes. Il y a des étapes dans le royaume de Dieu. Dieu règne là où il y a une conversion profonde. J'ai fait le mal, j'ai fait des choses pas bien, mais je me détourne de cela et je veux que Dieu règne dans ma vie. Il y avait une journaliste américaine qui s'appelle Céleste Sibley. Un jour, elle a emmené ses trois enfants dans un restaurant pour reprendre le petit déjeuner parce qu'elle était pressée. Et ce jour-là, il y avait plein de monde dans le restaurant. Le restaurant rempli, ce qui fait qu'ils ont voulu manger au comptoir, prendre leur petit déjeuner. C'est à l'américaine, hein. Ici on n'a pas trop l'habitude. En tout cas, ils étaient séparés. Elle était là avec deux enfants et elle avait sa petite fille qui était à l'autre bout. Elle avait sous les yeux, mais elle n'était pas à côté. Et donc, la petite fille, alors qu'elle vient juste d'être servie, elle commence à crier à sa maman pour lui parler. « Maman, est-ce que les gens ne prient pas avant de manger dans cet endroit ?» Et là, il y a un grand silence dans toute la salle. Tout le monde le regarde. Et la maman, elle sait plus où se mettre. Et elle n'a pas le temps de répondre que c'est le serveur qui est là, derrière le comptoir, et dit « Si, si, on le fait ici. Allez-y, ma sœur, priez. » Et donc, la petite fille, tout le monde déjà se met à fermer les yeux, à joindre les mains, à incliner les têtes. Et la petite fille, elle prie « Dieu, tu es grand. Dieu, tu es bon. Nous te remercions pour notre nourriture. » Et tout le monde dans la salle va dire « Amen !» Un petit enfant qui calcule pas, qui est simple. Mais c'est ça que Dieu cherche. Ça ne veut pas dire qu'il faut amener nos enfants pour faire la prière au restaurant. C'est pas une méthode que je parle. C'est la simplicité du cœur d'un enfant. C'est comme ça qu'il faut se tenir devant Dieu. Elle a l'habitude de prier avant le repas. Mais pourquoi ne pas le faire ailleurs? Alors aujourd'hui, on est dans des temps compliqués. Mais on a quand même cette liberté d'obéir. Ne cherchons pas d'excuses pour ne pas obéir surtout. Soyons simples et humble comme des enfants. Dieu règne là où il y a une humilité profonde. Alors repentons-nous, convertissons-nous. Souvent on me dit, oui, mais moi ça fait des années que je suis converti. Oui, mais c'est pas une raison. On peut se repentir tous les jours, se convertir tous les jours. Revenir à Dieu avec cet élan de cœur, parce que c'est ça que Dieu aime. Ressemblons à des petits enfants, et c'est ainsi que nous faisons avancer le règne de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 3, un autre aspect. Je me suis peut-être étalé sur le premier, on va aller un peu plus vite sur les autres. Matthieu 5, verset 3, c'est le premier verset du sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Comment faire venir le règne de Dieu en reconnaissant sa pauvreté spirituelle? Bon, c'est quand même lié à ce qu'on vient de dire. Mais quand on étudie le mot en détail, le mot pauvre ici, ça veut dire littéralement un mendiant. Quelqu'un qui manque de tout. Quelqu'un qui ne peut pas vivre si on ne lui donne pas. Alors, il ne s'agit pas d'aller faire la manche dans la rue. Il s'agit d'être devant Dieu comme des mendiants, en reconnaissant que tout ce qu'on a, ça ne sert à rien si Dieu ne nous donne pas ce dont on a besoin. Les qualités, tout ce qu'on peut faire, les facilités que l'on a, c'est bien. Mais si Dieu n'est pas avec nous, on perd notre temps. Ça peut faire du bien aux gens, mais spirituellement parlant, on perd notre temps. On a besoin, pour que le royaume de Dieu avance, de reconnaître notre pauvreté spirituelle. C'est lié à ce que Jésus va dire dans Matthieu 19, verset 23. Un enseignement que Jésus va dire à ses disciples. Alors qu'un jeune homme était venu le voir pour lui demander des conseils et que finalement il est parti tout triste. Jésus va dire à ses disciples, 19, 23 donc, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Là, c'est exactement l'attitude inverse. Le pauvre en esprit reconnaît sa pauvreté spirituelle. Le riche dit je suis satisfait, je suis riche, j'ai besoin de rien. Alors, c'est pas seulement question de richesse financière. Ça peut être une chose. Mais il y a tellement de choses qui peuvent, desquelles on peut être riche, qui prennent toute la place dans notre cœur et qui nous empêchent d'entrer dans le royaume des cieux. Si on prend, j'aime bien tourner les versets. Et si on prenait ce verset à l'envers, le premier qu'on a lu, heureux les riches, car le royaume de la terre est à eux. Vous voyez, il y en a qui se contentent de ça. Ils disent, je suis riche, j'ai ce qu'il faut sur la terre, j'ai besoin de rien d'autre. Mais c'est pas la vraie joie, ça. C'est pas la vraie bénédiction. La vraie bénédiction, c'est de reconnaître sa pauvreté. Combien de personnes aujourd'hui ne sont pas pauvres en esprit, mais sont riches en orgueil? Dieu va dire à son peuple, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, ma main m'ont acquis ces richesses. Tout ce qu'on a, c'est une grâce de Dieu. David, quand même, il était roi, il était dans un palais, il avait préparé tout ce qu'il fallait pour construire le temple qui allait être avec de l'or partout. Et il a dit, Seigneur, tout ce qu'on a entre les mains, ça nous vient de toi. Tout ce qu'on a, nos richesses, c'est à toi déjà, Seigneur. Parce qu'en fait, on t'appartient. Ça ne veut pas dire que il a vendu son palais et il s'est mis à vivre dans la rue, non. Mais il reconnaissait qu'il était simplement un gestionnaire de ce que Dieu avait mis entre ses mains. Ça me fait penser à cet homme politicien américain, Patrick Henry, qui a dit, au XVIIIe siècle, vers la fin de sa vie, il a dit ça. J'ai maintenant cédé tous mes biens à ma famille. Il y a une chose de plus que j'aimerais pouvoir leur donner. C'est la foi en Jésus-Christ. S'ils l'avaient eu et que je ne leur avais donné pas un centime, ils auraient déjà été riches. Et si je leur avais donné tous les trésors du monde, ils seraient pauvres s'ils n'avaient pas eu la foi. Cet homme, il avait compris, il avait des moyens, il était sénateur, etc. Mais il avait compris le plus important de tout ça. C'est la foi en Jésus, c'est ça notre richesse. La richesse qui empêche le royaume de Dieu d'avancer, c'est pas forcément financier, donc comme on disait. Mais Jésus va dire des scribes, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ces hommes étaient pleins de propre justice. Ah, moi je fais ceci, moi je fais comme ça, moi quand je prie ça dure 25 minutes. Moi quand je prie j'emploie des mots soutenus que personne ne comprend. Oui alors, et peut-être l'intérêt de la prière c'est qu'on comprenne ce que tu dis pour dire amen. Vous voyez, des fois on se fait de nos propres justices, mais ça, devant Dieu ça ne tient pas. Parce que Dieu, il aime un cœur simple. Il aime qu'on reconnaisse notre pauvreté. Souvenez-vous du pharisien qui priait. Oui, Seigneur. Il était debout. Il était sur l'estrade. Seigneur, je te remercie parce que moi, je ne suis pas comme cet homme. Moi, je donne la dîme. Moi, je fais ceci. Moi, je visite les pauvres. Et le publicain, je pense qu'il était au fond de la salle. C'est moi qui image là. Il était au fond de la salle, par terre, à genoux. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un pécheur. Et qui c'est qui est ressorti du lieu avec la prière exaucée? C'est le dernier. Parce qu'il était pauvre spirituellement. Mais il savait. Quand on est pauvre spirituellement, quand on reconnaît sa pauvreté, c'est pas pour se plaindre, c'est pas pour se morfondre, mais c'est pour être béni du Seigneur qui a sa main pleine de provisions, de bénédictions. Et quand on vient avec ce cœur-là dans la présence de Dieu, on repère jamais les mains vides. Parce que le Seigneur nous donne. Alors faisons venir le royaume de Dieu, reconnaissant dans notre vie nos failles, nos faiblesses, et déposons-le devant le Seigneur et laissons-le nous transformer. Amen. Matthieu 5 toujours, verset 10, juste après. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ça vous intéresse, ce programme? Ça ne nous intéresse pas forcément, mais quand on voit ce que Jésus dit, il dit qu'on est heureux, on est béni si on est persécuté pour la justice. Dieu va régner là où il y a la résistance malgré la persécution. Quand on tient bon, malgré les attaques, malgré les difficultés, malgré les épreuves, le Seigneur règne. Et le Seigneur nous permet d'avancer, et le Seigneur nous permet de traverser les épreuves, et d'en ressortir encore plus grand. encore meilleur par sa grâce. C'est exactement comme le processus pour faire des diamants. Je vais vous donner la recette, là. Un scoop. La recette pour faire des diamants. Ah, écoutez bien, vous pouvez noter si vous voulez. Alors, il faut que je retrouve quand même. Voilà. Donc, vous prenez du carbone. Les diamants sont constitués de carbone. Et ils se forment dans... ils se trouvent dans des conditions de température et de pression très particulières. 1100 degrés à 1400 degrés pour la température et 4,6 gigapascal ou 6 gigapascal, c'est-à-dire 45 000 fois la pression de l'air. Vous mettez tout ça avec cette température, cette pression, le carbone et vous obtenez des diamants. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant vous débrouillez. Mais la pression, vous imaginez? 45 000 fois la pression de l'air. C'est quelque chose d'énorme. Et c'est vraiment l'image de ce que Dieu permet parfois. Parfois nous sommes persécutés, oppressés. Le mot pour persécution, c'est vraiment pressé. Parfois nous sommes dans ces pressions extrêmes. Et quand on prie pour nos frères et sœurs persécutés, on sait que eux, ça, c'est encore un niveau, un cran au-dessus. Mais on sait que dans ces moments-là, si on résiste, Dieu va faire de notre foi un diamant qui va glorifier son nom. C'est le seul moyen. Cherchez pas à faire des diamants autrement. Le seul moyen de faire un diamant avec notre cœur, c'est de mettre notre foi à l'épreuve. Et Dieu le sait, c'est pour ça qu'il dit « Heureux ceux qui sont persécutés, le royaume des cieux est à eux, le règne de Dieu s'étend sur quelqu'un qui résiste dans la persécution. » Alors comment résister? Ben, Jésus va le dire, si ton ennemi te persécute, il va dire des ennemis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà un moyen de résister. On peut soit se plaindre en faisant que pleurer, Seigneur, 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 ou alors on dit, Seigneur, je vais prendre le dessus sur cette épreuve. Je te bénis, Seigneur. Tu bénis cet homme. Tu touches son cœur. Combien de chrétiens souffrants ont dû prier pour que Saul de Tarse puisse changer de vie? Parce qu'ils ont été blessés. Peut-être dans la prison où ils étaient, où ils avaient été jetés par Saul de Tarse, certains ont prié. Et Dieu est intervenu. Quand on voit ce que Dieu a fait de Saul de Tarse, on voit que ça vaut la peine de prier pour les ennemis. On ne prie jamais contre les personnes. On prie toujours pour les gens. Parce que le Seigneur met son amour dans nos cœurs. Étendons le royaume de Dieu sur la terre en persévérant dans l'épreuve. Et on va terminer avec ce dernier passage, Matthieu 5, verset 19. Matthieu 5, 19. Vous voyez, c'est pas difficile, hein? On étudie les versets où Jésus parle du royaume. Et on comprend ce que ça veut dire que ton règne vienne. Matthieu 5, 19. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Dieu règne là où il y a le respect de sa parole, là où il y a l'obéissance, là où il y a la soumission. Parce que quand on est dans le royaume, on a compris que la parole du roi, elle a de la valeur. La parole du roi, c'est cette parole que l'on a entre les mains. Et parce qu'on a choisi par la repentance d'entrer dans le royaume, on dit, Seigneur, tes règles sont mes règles maintenant, tes commandements sont mes commandements, je les fais miens, je les accepte, je les remets pas en question. On voit de plus en plus des gens qui prennent une Bible et qui disent, ah, ça c'est bien, je souligne, je surligne, et puis, ah non, ça c'est pas bien, je raye, ça c'est pas intéressant. Mais vous avez lu ce qu'on a lu? Vous avez bien compris? Celui, qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui violera l'un de ses plus petits commandements, il est le plus petit dans le royaume de Dieu. C'est une façon gentille de dire que peut-être même il est en risque de sortir du royaume de Dieu. Est-ce que nous voulons prendre le risque? Ou est-ce que nous voulons garder cette parole? Parce que tu as gardé ma parole, dit le Seigneur, je te garderai. Nous voulons la garder telle qu'elle, intacte, dans toute sa beauté. Est-ce que vous comprenez toute la Bible? Qui ce matin peut dire « Je comprends toute la Bible ». Je n'ose même pas lever la main, parce que c'est pas le cas. Mais je sais que même les endroits où je ne comprends pas, le Seigneur me bénira un jour, me donnera l'intelligence un jour. Si c'est pas sur la terre, ce sera dans le ciel. Peu importe. Mais je fais confiance. Par contre, ma foi, elle est dans toute la Bible à 100%. Parce que c'est la parole du roi des rois. Et je veux appliquer mon cœur, ma vie, à lui obéir. Un vieil homme qui vivait dans une ferme dans les montagnes, il avait son petit-fils qui était venu le visiter. Et ce vieil homme, tous les matins, il se levait tôt pour lire sa Bible. Il était dans son fauteuil. Alors, son petit-fils, quand il se levait, il le voyait dans son fauteuil avec sa Bible. Il voulait faire pareil. Il voulait l'imiter. Il prenait sa Bible, mais il voyait que il comprenait pas. C'était compliqué pour lui. Alors, un jour, son petit-fils a demandé au grand-père, « Grand-père, j'ai essayé de lire la Bible comme toi, mais je n'arrive pas à comprendre les versets. Et quand je les comprends, parfois, j'oublie dès que je ferme le livre. Comment est-ce qu'on fait? Comment on arrive à tirer des leçons de la parole ?» Alors, le grand-père silencieux, il avait un panier plein de charbon. Il arrête de mettre les charbons dans le panier. Et puis, il dit, « Prends cette corbeille. » Il enlève même les charbons. « Prends cette corbeille. Tu vois là-bas, au bout du jardin, il y a la rivière. Tu vas me remplir ce seau avec le panier. » Donc l'enfant, il y va, parce qu'il a pas bien saisi au début. Il va à la rivière, il charge le panier, remplit, et puis il revient. Comme c'est un panier, l'eau coule de tous les côtés. Et il essaye de retenir comme il peut, il se mouille partout. Et alors le grand-père lui dit, « Mais essaye d'aller plus vite, parce que c'est peut-être que tu n'es pas assez rapide. » Donc là, il se met à courir, il va à la rivière, il remplit, et puis là, il se met à courir. Mais bon, quand il arrive, il y a 3 gouttes qu'il arrive à mettre dans le seau. Et troisième fois, « Vas-y, essaye encore, peut-être que tu n'es pas encore allé si vite. Donne tout ce que tu as !» Le gamin, il y va, à la rivière, le panier, et puis il court. Il n'en peut plus, il est essoufflé, et il dit à son grand-père, « Mais c'est totalement impossible, comment tu veux que je ramène de l'eau dans ta corbeille ? Je vais prendre un seau plutôt. » Non. Et puis, le petit-fils dit, « Tu vois, grand-père, c'est inutile, ça sert à rien. » Et puis, le grand-père lui dit, « Mais regarde le panier. » Et le jeune homme regarde la corbeille, et il réalise qu'elle est différente de quand il a pris la corbeille. Avec le charbon, elle était toute noire, toute sale, et à force d'aller à la rivière, elle était devenue toute nette, lavée. Et il va dire, ce grand-père, « Mon fils, c'est la même chose quand tu lis la Bible. Il se peut que tu comprennes pas et que tu ne te rappelles pas de tout. On a des fois le cerveau comme un panier. Mais quand tu lis la Bible, c'est ton âme qui change, c'est ton cœur qui est lavé et transformé. Ça vaut la peine, si on veut voir le règne de Dieu, de placer nos vies devant la parole de Dieu et de la laisser laver notre cœur et notre âme. Ça vaut la peine de prier que ton règne vienne, Seigneur, et de respecter la parole. Parce que là où quelqu'un respecte la parole de Dieu, Dieu règne, c'est automatique. Si je m'amuse à remettre en question, si je m'amuse à discuter avec Dieu sur les versets, je suis en danger. Mais si j'accepte cette parole telle qu'elle, et que je la laisse faire son œuvre de grâce, alors le Seigneur va me bénir. Amen. On va fermer les yeux quelques instants, et on veut prier que ton règne vienne, Seigneur. Sur la terre comme au ciel. Ton règne est éclatant. Tu règnes d'âge en âge dans ton ciel. Et Seigneur éternel, tu règnes avec splendeur, avec majesté. Mais nous désirons que ce matin encore, tu puisses régner dans chacun de nos cœurs et de nos vies. Seigneur, si ce matin il y a quelqu'un qui n'est pas encore entré dans ton royaume, ô Seigneur, que par la repentance il puisse ouvrir la porte de son cœur et te laisser rentrer, Seigneur, et laisser ton royaume venir dans sa vie, dans son être, parce que ça vaut la peine de t'appartenir, ça vaut la peine d'être un citoyen du royaume. Par ta grâce, Seigneur, tu nous permets de goûter à cette vie du ciel sur la terre, Seigneur. Merci de nous visiter encore ce matin. Tu vois ceux qui sont plutôt dans les combats. Tu vois ceux qui sont comme persécutés. Ô Seigneur, par ta grâce, donne-leur de résister malgré la persécution. Donne-leur, Seigneur, la force pour tenir bon, afin que leur foi soit éprouvée par le feu, Seigneur, et qu'elle devienne quelque chose de précieux entre tes mains pour la bénédiction des autres. Merci, Éternel, de ce que de ce que tu fais avec chacune de nos vies, Seigneur. Nous sommes là devant toi. Nous voulons placer ce que nous sommes devant toi. Nous voulons reconnaître notre pauvreté, nous ressembler à des petits enfants dans ta présence et laisser ta sainte parole nous former, nous façonner, nous transformer, Seigneur. Parce que nous savons que c'est là où ton royaume se trouve, là où ton règne vient, Seigneur éternel. Merci. Merci de la grâce que tu nous fais encore ce matin, de pouvoir nous tenir dans ta présence et de pouvoir comprendre un peu plus ce que tu nous demandes. Aide-nous aussi à ne pas juste répéter mécaniquement des choses, mais à les vivre, à les mettre en pratique et à glorifier ton nom autour de nous, Seigneur, et pour ta gloire. Amen.